La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.
Bonjour Véronique.
Et bonjour Fabrice.
Véronique Lies, chaque mercredi sur Nutri Radio. Ça va Véronique, vous avez appris parce qu'on enregistre dans les conditions du direct, mesdames, messieurs. Donc là, à l'heure où on parle, là, maintenant, tout de suite. Pas mercredi, mais l'émission est diffusée le mercredi. Et Véronique a appris il n'y a pas si longtemps que ça que son émission était diffusée le mercredi. Donc j'en déduis que vous ne vous réécoutez pas.
Mais Fabrice, mais que dites-vous? Mais vous avez pris l'apéro déjà, il est 16h12. Bien sûr que je sais que je passe le mercredi.
À quelle heure?
Mais toute la journée, vous me passez en diffusion permanente. Non, c'est le matin, le mercredi matin.
À quelle heure?
Mais je ne sais pas, moi je travaille Fabrice. Mais voilà, de toute façon, on peut le réécouter après en podcast.
Tout à fait, chaque mercredi, 10h-11h.
10h, voilà, vous voyez.
Et oui, parlez-en à vos amis, vous allez voir. Mieux d'aller sur Radio Monaco, là, faire des choses et des machins, je ne sais pas. Qu'on salue, évidemment.
Vous êtes fatigué, Fabrice. Moi, je pense des petites vacances.
Là, vous me dites que je suis fatigué. Ensuite, l'apéro. Vous avez envie de m'attaquer. Bon, en tout cas, on est très heureux d'avoir une experte comme vous pour parler de ce fameux microbiote. Alors, je dis expert. Il y en a qui me disent oui. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que Véronique Lies, diététicienne nutritionniste, a écrit ce bouquin extraordinaire, Mon microbiote sur mesure, disponible aux éditions Le Duc. C'est vrai qu'on s'inspire pas mal de ce bouquin parce que vous avez attaché beaucoup de soins à rédiger des choses très complètes et donc forcément on épluche cela avec vous chaque semaine et plus encore. Hein, mais bon, c'est une belle source d'inspiration. Par exemple, aujourd'hui, vous vouliez insister sur le cancer du sein et le lien avec le microbiote.
Absolument. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Alors, expert, qu'est-ce que ça veut dire, expert? Voilà, c'est vous d'ailleurs qui m'appelez comme ça. Moi, je me considère plus comme déjà une passionnée parce que le microbiote, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et puis, c'est vrai que je me suis formée, j'ai suivi des DU et puis que j'ai beaucoup lu lors de l'écriture de ce livre pour avoir vraiment des données actuelles. Mais c'est très difficile de maîtriser toutes les données parce que c'est quotidien des dizaines d'études qui sortent et c'est pratiquement impossible de rester à la page. Et donc, oui, on va parler d'un sujet assez sérieux aujourd'hui, le cancer du sein. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à présent quand même de maladies qui ont un lien, on va dire, plus évident ou plus logique avec le microbiote et notamment des maladies inflammatoires de l'intestin. Et c'est vrai que on fait pas nécessairement le rapprochement. Or, le cancer, c'est quand même, en tout cas le cancer du sein, un cancer extrêmement fréquent chez la femme. Et même si aujourd'hui, on sait qu'il se traite excessivement bien, c'est quand même pas un cancer anodin. Alors, on sait aussi qu'il existe plusieurs formes différentes de cancer. Moi, je suis pas cancérologue, je suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a notamment, et vous en entendez souvent parler, le cancer du sein que l'on appelle hormonodépendant. Et donc, on a bien compris qu'il est sous la dépendance de nos hormones. Et donc, c'est un cancer, le cancer du sein hormonodépendant, qui peut être ou pas donc influencé. En l'occurrence, ici, il l'est par nos œstrogènes. Et donc, on sait que à certaines périodes de la vie, chez la femme, eh bien, il y a un risque augmenté et ce risque est souvent associé justement à ce qu'on appelle la durée d'exposition, la charge en œstrogène durant la vie de la femme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle plus vous avez eu d'enfants, plus vous êtes protégée. Et donc, il y a comme ça toute une série de facteurs de protection ou de facteurs de risque. Eh bien, on sait que le microbiote et tous les métabolites qu'il est capable de produire, eh bien, influencent le risque de développer un cancer du sein.
Véronique, on va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio, restez avec nous.
La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.
Véronique Lies sur Nutri Radio aujourd'hui pour nous parler du lien entre le cancer du sein et le microbiote. Alors évidemment, c'est un sujet très délicat, mais vous l'avez dit, il y a un lien véritable qu'on va continuer à établir hein, entre ce microbiote et le cancer du sein. Alors, Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ce que vous nous avez annoncé en préambule ?
Absolument. Alors, peut-être un petit peu de vocabulaire, parce que ce sont des mots qu'on va entendre de plus en plus. On sait aujourd'hui, comme je l'ai dit, que le microbiote va fabriquer certains métabolites. Et en fait, ça implique donc toute une série de gènes bactériens. Et ces gènes bactériens qui sont donc impliqués dans le métabolisme des œstrogènes, on appelle ça l'estrobolome. C'est un mot un petit peu complexe, mais donc c'est tout ce qui concerne, tout ce qui lie le microbiote à la métabolisation de nos œstrogènes. Et en fait, c'est cet estrobolome, comme on le nomme, qui va être capable d'influencer ou pas donc le risque de cancer du sein hormonodépendant. Alors, au niveau des associations qui ont été mises en avant aujourd'hui et des mécanismes que l'on peut explorer, eh bien, on sait par exemple que certaines bactéries intestinales sont capables de déconjuguer les œstrogènes qui sont présents dans notre intestin. Donc, en fait, en réalité, nous avons des œstrogènes qui vont remplir leur fonction et qui vont être détoxifiés par notre foie. Et pour ça, ils vont être conjugués à des molécules qui les rendent éliminables. C'est ça le principe de la détox hépatique. Et une fois qu'ils sont conjugués à ces molécules, eh bien, nos œstrogènes se retrouvent dans notre intestin. Et a priori, là, on est supposé les éliminer, ce qui diminue, vous l'aurez compris, la charge en œstrogènes. Eh bien, certaines bactéries dans l'intestin vont dire « Non, non, toi, je vais te déconjuguer, je vais te retirer cette molécule qui te permet d'être éliminée au niveau intestinal. » Et on se retrouve avec des œstrogènes qui sont à nouveau réabsorbés et qui vont donc aller augmenter la charge, si vous voulez, en œstrogènes. Et donc, en fait, au lieu d'être éliminés, ces œstrogènes sont, on va dire, rendus à nouveau actifs par les bactéries et rendus réabsorbables. Et donc, on a, par ce mécanisme-là, une augmentation déjà du risque du cancer du sein. Ça, c'est un mécanisme par lequel eh bien, le microbiote est lié au risque de cancer du sein. Et ensuite, vous avez d'autres mécanismes qui concernent aussi des micro-organismes qui vont vraiment véritablement aller augmenter la charge en œstrogènes en produisant des métabolites œstrogéniques. Donc, on voit bien qu'il y a voilà, toute une série de choses qui font que quand on souffre de dysbiose, d'un déséquilibre du microbiote, eh bien, on va gérer finalement cette charge en œstrogènes différemment. On sait aussi que quand on souffre de dysbiose, eh bien, on peut avoir un risque augmenté d'obésité. Hein, ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Et on sait que être en situation d'obésité, ça augmente le risque de facteur, c'est un facteur de risque hein, de cancer du sein. Et donc, on sait notamment que ce type de microbiote est aussi associé au risque de cancer du sein par d'autres mécanismes liés à l'aromatase, etc., et qui sont donc directement liés à cet excès de masse grasse. Donc voilà, en gros, un petit peu les grands mécanismes qui nous permettent d'établir vraiment un lien entre microbiote et cancer du sein. Après, vous ajoutez évidemment le côté inflammatoire aussi. On sait très bien que d'avoir un intestin en situation d'inflammation liée à une dysbiose, eh bien, l'inflammation va contribuer aussi à augmenter le risque de cancer de manière générale. Par exemple, l'inflammation augmente le risque d'insulinorésistance. Eh bien, l'insulinorésistance est un facteur de risque en soi de cancer. On sait également que quelqu'un qui produit beaucoup de LPS, donc ces fameux lipopolysaccharides, ces petits morceaux de membrane de certaines bactéries, eh bien, ces LPS sont pro-inflammatoires. Ça va aussi augmenter non seulement le risque de cancer du sein, mais attention, ça va même plus loin puisqu'on a aussi un lien entre présence de LPS et métastase associée au cancer du sein. Donc, c'est évidemment pas anodin et on voit très bien que le microbiote est un allié puissant. Et alors, dans les deux sens, mais ça, on peut peut-être en parler juste après, puisqu'on a aussi un lien protecteur de ce microbiote par rapport au cancer du sein.
Alors, justement, vous avez fait le travail à ma place, donc on fait une pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.
Véronique Liès sur Nutri Radio pour nous parler du lien entre le cancer du sein et le microbiote que vous avez établi, que vous avez rappelé. Et cette émission, si vous venez d'arriver, elle sera disponible à partir de 18h ce dimanche en podcast. Vous allez évoquer maintenant ces aspects protecteurs du microbiote par rapport justement au développement du cancer du sein.
Voilà, tout à fait. Alors, peut-être quand même préciser, parce qu'on parle beaucoup de ce microbiote et il est évidemment extrêmement important, mais rappelons quand même qu'il n'est pas le seul responsable au niveau cancer du sein. Il y a la génétique, il y a l'environnement, il y a les toxiques, il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas toujours contrôler et qu'on peut pas toujours avoir évidemment à l'œil. Donc, il y a des personnes qui mangent excessivement bien et qui vont avoir un cancer, que ce soit bien clair. Alors, au niveau des facteurs protecteurs, ce que l'on peut dire, c'est que j'ai parlé d'inflammation. Eh bien, certaines bactéries sont protectrices. Il y a des publications qui montrent, et je vous ai déjà parlé de cette souche que vous n'arrivez jamais à répéter, Fabrice, qui est Fecalibacterium prausnitzii. Eh bien, cette souche, on sait aujourd'hui qu'elle est capable de supprimer la croissance des cellules cancéreuses du sein. Et c'est une des souches les plus anti-inflammatoires que nous ayons au niveau du microbiote. Nous sommes supposés tous en avoir, parce que souvenez-vous, nous avons évidemment un microbiote unique, chacun a son microbiote avec environ 25% de souches que nous partageons tous et le reste, 75% de souches qui sont plutôt personnelles, on va dire individuelles. Eh bien, Fecalibacterium prausnitzii fait partie des souches que nous sommes supposés tous avoir et c'est notamment une souche qui manque aux personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn. Mais ça ne s'arrête pas là. On sait que Fecalibacterium prausnitzii est capable justement de supprimer, donc d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses du sein. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas encore quelque chose qui se fait véritablement en pratique courante, eh bien, il y a des traitements qui, semble-t-il, seraient plus efficaces en présence de certaines souches. Et donc, il y a des études en cours, des publications à venir sur les effets d'une transplantation de microbiote fécal à des personnes atteintes de cancer, transplantation que l'on ferait avant une chimiothérapie, par exemple, dans l'espoir d'améliorer l'efficacité du traitement. Puisque on sait que, eh bien, en fonction du microbiote que vous avez, vous allez plus ou moins bien répondre au traitement. C'est logique, on le sait, on répond pas tous de la même façon à un médicament. Eh bien, c'est vrai aussi pour des chimiothérapies et le microbiote joue un rôle également de ce côté-là. Donc, on a évidemment toujours intérêt à avoir un bon microbiote pour se prévenir du cancer du sein, mais aussi pour améliorer l'efficacité des traitements si on devait être confronté à un cancer du sein.
Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut aller au-delà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des recommandations alimentaires, justement, pour ce microbiote ?
Alors là, évidemment, on revient dans les recommandations dont on a déjà beaucoup parlé. Donc, l'idée, c'est évidemment d'avoir une alimentation qui soit riche en fibres. Hein. je l'ai pas dit. Donc, je l'ai déjà évidemment énormément dit. On sait que plus on va manger végétal, donc c'est le végétarisme, mais il n'est même pas nécessaire d'aller jusqu'au végétarisme. On sait que le flexitarisme déjà en soi est un facteur de protection. Et l'alimentation pour laquelle il y a le plus de publications, c'est évidemment l'alimentation de type méditerranéenne qui est elle-même riche en fibres. Et ces fibres donc, vont donc moduler le microbiote, influencer le métabolisme des œstrogènes, mais aussi avoir un effet sur notre profil en acide biliaire parce qu'on sait qu'il est aussi concerné par ce risque de cancer du sein, sans oublier les phytoestrogènes du soja. Souvenez-vous, on en a déjà parlé aussi, on a dit qu'en fonction de votre microbiote, eh bien, vous alliez pouvoir utiliser ce soja. Alors, je parle du soja, mais ça peut être aussi les lignanes des graines de lin, les phytoestrogènes du lin, etc., qui, eux aussi, sont protecteurs dans le risque de cancer du sein. Donc, mettez des graines de lin, mangez du soja et tout ce qui va booster votre butyrate, qui est un acide gras à chaîne courte, très anti-inflammatoire, notamment les oméga-3. Dans mon livre, il y a toute la stratégie pour booster ce butyrate notamment. Donc, les oméga-3 en font partie. Les graines de lin, le soja, j'en ai parlé. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a certaines souches qui ont été identifiées et qui sont capables de limiter en fait l'activité de l'enzyme qui déconjugue les œstrogènes. Et on sait que le kéfir, par exemple, manger du kéfir, mais même les simples yaourts, on sait que les Saccharomyces boulardii, qui sont des levures qu'on trouve très, très facilement dans le commerce, on sait que certains lacticasibacillus, notamment les casei shirota, ont aussi un effet protecteur sur le cancer du sein. Donc, tout ce qui est produit laitier fermenté, c'est inversement associé à l'incidence du cancer du sein. En d'autres mots, c'est protecteur.
Donc ça, vous nous avez balayé l'histoire d'une manière, on va dire, assez efficace, assez grandiose. Vous avez passé en revue les probiotiques, les fibres, le butyrate. Vous nous avez parlé d'un petit peu de tout. Vous aviez envie d'en découdre aujourd'hui, Véronique, j'ai envie de dire.
Mais c'est tellement... C'est tellement triste de d'être confronté à ça et si on peut l'éviter, pourquoi pas. Donc voilà, autant savoir. Mais encore une fois, ça ne fait pas tout. C'est une part de la protection. Et donc voilà, bien manger, ça peut aussi servir à ça, à se prévenir du cancer du sein.
Alors vous savez, vous disiez, on l'a dit, qu'on parlait des fibres notamment. Et si je l'ai pas dit une fois, je l'ai pas dit mille fois. Mais c'est important aussi de répéter les choses. Parce que on le voit malgré les recommandations, malheureusement, c'est pas si simple. Donc
c'est pas si simple et c'est vrai et c'est tout à fait vrai. D'autant que en moyenne nous mangeons, sauf vous et moi évidemment, Fabrice, et parce que nous mangeons exceptionnellement bien, mais en moyenne, c'est 18 grammes par jour et on devrait être au moins à 30, idéalement même 35 grammes. Et certaines publications recommanderaient même 38 grammes de fibres au quotidien. Donc, on en est très loin et je pense, mais c'est mon humble avis, que c'est une des plus grandes erreurs alimentaires aujourd'hui.
Oui, je vous rejoins là-dessus évidemment. Alors, le riz, il y a des fibres hein, dans le riz, on est d'accord?
Mais ça dépend lequel. Vous mangez du riz OB, vous voyez ce que je veux dire, blanc raffiné. Je sais que vous êtes très mal à l'aise quand je cite les marques, donc je vais faire des abréviations. Mais si vous mangez un bon riz rouge plein d'anthocyanes, du riz noir plein de polyphénols, tout ça, ce sont évidemment des prébiotiques magnifiques et des fibres également. Donc, plus c'est complet, mieux c'est. Moins c'est raffiné, mieux c'est. Plus c'est coloré, mieux c'est. En tout cas, par rapport au riz, parce que ça ne vaut pas pour les M&M's. Hein. Mais sinon, voilà, on va mettre de la couleur, des fibres, des prébiotiques, et tout ça va contribuer. Parce que c'est vrai que les 38 grammes dont je parle, ce sont les fibres. Mais vous ajoutez à ça encore tous les polyphénols, les oméga-3, qui sont eux aussi des prébiotiques. Et là, vous allez alors vraiment avoir une alimentation qui va être très, très protectrice.
Et les céréales aussi?
Mais bien entendu, donc vous avez parlé du riz, mais après les céréales, c'est les légumineuses, les lentilles, c'est les noix, c'est toutes ces choses-là. Ajoutons-les quotidiennement vraiment à notre alimentation. J'ai parlé des graines de lin mixées, mais on peut rajouter un petit peu partout des souchets. On peut, voilà, il y a même certains sucres maintenant, le sucre de yacon, qui contient aussi des prébiotiques. Donc voilà, dans notre vie au quotidien, en toute conscience, on doit vraiment mettre en place une stratégie pour augmenter ces fibres et ces prébiotiques.
Merci beaucoup Véronique, cette émission vous la retrouvez à partir de mercredi, non n'importe quoi, c'est aujourd'hui mercredi, à partir de dimanche, à partir de 18h, voilà, sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts. Voilà. Au revoir Véronique, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir Fabrice.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.